Nous sommes en direct au téléphone avec Frédéric Woerst pour parler de Ward 1er, 2e siècle. Bonsoir Frédéric Woerst. Merci beaucoup d'être en direct avec nous par téléphone. Alors, pour commencer cet entretien avec vous, vous allez nous lire un extrait de la fondation du mythe des Vardes. On va commencer par cet extrait que vous allez nous traduire, parce que vous allez le lire d'abord en langue vardienne. Oui. Vous allez nous le traduire et on pourra commencer ainsi l'entretien.
Alors il s'agit donc, très vite pour le présenter, il s'agit du mythe le plus ancien en fait de l'histoire des Ward. C'est l'histoire du Nil dont ce peuple serait originaire dans un passé extrêmement reculé. Voilà. Et cela, c'est un auteur du 2e siècle qui décrit la géographie de cette île. Donc voilà le début du texte. Nawar zemazana ar afna abwaga uzababaras wefe ak otaron zaif abwazen zis ber ab aber. Kan afna kardam o damazan gamke da kanta waran ak ojora amaris. Einen naban zis yum apain o baman ek einan ankumar wewar ak omer arkefis aizumwem. Wanu arboren ak arweris aizum zewon ankum arkata ak arjumis aizum mazma wanu artwara bor ankum arnent o jawanafkir amba amben nermkun ak omer kail. Donc ce qui veut dire, dans la tradition des Ward, l'île de Waga avait à peu près la forme d'un carré dont chaque côté mesurait 4 arbres. C'est une mesure. Au centre de l'île s'élevait une très haute montagne appelée Amares. 3 rivières prenaient leur source à son sommet et descendaient vers l'océan. La première, coulant vers le nord, était une rivière d'eau. La deuxième, coulant vers l'orient, une rivière de résine. Et la troisième, coulant vers l'occident, une rivière de vin. Mais en direction du sud, aucun fleuve ne descendait. On y trouvait seulement un lac de lait.
Merci beaucoup, Frédéric Woerst. Alors, ce texte, l'île de Waga, correspond à un mythe, une sorte de mythe, à une légende. Néanmoins, dans votre petite note d'introduction, parce que chaque texte est introduit par une courte note, vous mettez oui. qu'un souverain a lancé un explorateur à la recherche de cette île légendaire. Sur la foi des renseignements justement apportés par ce texte-là. Et du coup, dans cette note, il y a quelque chose de vous apporter comme ça soudain un élément qui fait croire que ça a vraiment existé. Oui, vous apportez des éléments de véracité.
Et d'ailleurs, la présentation précise que l'expédition n'est jamais revenue et que donc on n'a pas la réponse, évidemment.
Donc là, on a affaire à un mythe fondateur.
Alors, c'est l'un des mythes, c'est pas le plus important, c'est un mythe un peu secondaire, mais c'est le plus ancien en tout cas. C'est le mythe pour les Ward qui correspond vraiment à l'origine la plus lointaine possible. Donc il n'y a rien au-delà, à part les dieux. Ouais.
Alors,
mais on n'a donc jamais retrouvé cette île, et il semblerait que les Ward eux-mêmes pensent que ce soit un mythe. Enfin, on ne sait pas s'ils croient à leur mythe, mais il semblerait qu'eux-mêmes ne considère pas que cette île ait vraiment existé. Peut-être un symbole.
Alors, j'aimerais préciser que donc ce texte que vous avez lu est au milieu de votre ouvrage, puisque il n'est pas dans un ordre chronologique. Au contraire, il y a des parties justement qui se juxtaposent comme ça, avec à la fin une table raisonnée des matières où on voit là les textes par siècle, où on les voit aussi par genre, la littérature religieuse, les mythes et les récits, et on voit qu'ils sont mélangés au fil des pages. Donc on a plusieurs entrées possibles dans votre texte. Moi, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, parce que tout ça, vous l'avez inventé, c'est de votre invention, c'est de votre imaginaire. Et du coup, j'avais mon premier problème que je me suis posé en vous lisant, et j'imagine que ça a dû être votre problème à vous en tant qu'écrivain, en tant qu'inventeur de toute cette fiction, c'est le problème de la référence aux traditions, aux mythes, aux légendes, mais aux vraies, celles qui existent dans notre monde, c'est-à-dire au poids historique de ce qui vous a construit, vous, homme occidental, vous, homme européen. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu une lutte entre ce poids référentiel et la volonté de votre entreprise de s'en détacher?
Alors, lutte, oui, il y a une certaine forme de lutte, en effet, ou en tout cas de mise à distance. Et le fait que j'écrive dans une langue inventée, donc pas en français directement, je traduis en français après, m'aide beaucoup en fait dans cette espèce de lutte, en tout cas de mise à distance, au sens où quand j'écris, je suis tellement concentré sur des choses qui sont de la grammaire, du vocabulaire, la langue vraiment des words, que je n'ai pas forcément conscience de tous les points d'attache qu'on pourrait trouver avec les traditions occidentales ou d'autres traditions d'ailleurs humaines réelles. Donc en quelque sorte, la langue des words me sert de filtre pour peut-être pas tomber tout le temps dans le pastiche ou dans la référence ou dans l'allusion. Et la plupart du temps, lorsqu'en tout cas je trouve qu'il y a une référence ou une ressemblance, c'est après coup que je m'en aperçois, c'est pas quand j'écris.
Oui, parce que ça a dû être inévitable, après avoir écrit, d'avoir retrouvé finalement des mythes et légendes qui existent déjà.
Alors quand je me relis, oui, c'est inévitable que je pense à quelque chose d'autre, mais de même quand les lecteurs lisent, et bien des lecteurs l'ont déjà dit ou l'ont déjà écrit, lorsqu'ils lisent, forcément ça leur évoque quelque chose de réel, quelque chose de grec, d'arabe, d'iranien, du chinois ou d'aztèque ou tout ce qu'on voudra, et d'ailleurs c'est jamais les mêmes références, ce qui prouve que c'est une question aussi de projection, que Ward permet au lecteur de se projeter, enfin, c'est comme un miroir un peu déformant où on a l'impression d'avoir une littérature, une espèce de culture comme ça, différente, mais qui bien entendu a à répondre à des questions auxquelles les autres littératures ou les autres peuples ont déjà répondu, chacun à sa façon. Et donc, presque mécaniquement, on peut trouver des références ou des ressemblances, des analogies. Et c'est peut-être un des aspects du jeu, en tout cas, que je propose au lecteur. Chacun peut s'amuser à comparer, à différencier. Et le plus amusant, en tout cas, moi, le retour que j'en ai, le plus amusant, c'est que ça n'est jamais la même chose, évidemment. Chaque lecteur est convaincu que tel texte est forcément une allusion à... Un autre lecteur est convaincu d'autre chose. Donc c'est un jeu, de ce point de vue-là.
Mais vous, avant le retour du lecteur, avant que le livre soit publié, quand vous écriviez dans en langue vardienne et qu'après vous vous apercevez à la relecture que finalement c'était peut-être trop proche de mythes ou légendes dont vous aviez connaissance, c'était quoi votre réaction? De supprimer le texte? De le retravailler?
Oui, plutôt de corriger, enfin de réadapter ou bien d'écrire simplement autre chose qui contredise. Mais cela dit, c'est assez rare parce que c'est assez exceptionnel qu'on puisse vraiment assigner à un fragment du livre tel ou tel modèle ou référence. En général, c'est plutôt suggestif, c'est plutôt une évocation, une vague impression de déjà-vu, mais... Je pense que si on lit des textes arabes ou des textes chinois, on peut aussi avoir la même tentation, en tout cas, de les comparer à des choses que nous connaissons. Enfin, je crois que c'est le livre, dans son sens plus sérieux, au-delà du jeu, aussi comme préoccupation de faire se confronter le lecteur à quelque chose d'autre. Alors évidemment, l'autre n'est jamais absolu, radical. L'autre, il est un peu ressemblant, mais pas tout à fait non plus. Donc, l'intérêt aussi, c'est de se départir de la... À la fois, bien sûr, de donner libre cours à à l'espèce de comparaison qu'on peut faire sans arrêt, et puis aussi de regarder ce que le monde des Ward a de propre, de particulier.
Donc vous avez... Un imaginaire qui a permis d'inventer ce monde-là à différents siècles. J'imagine qu'à un moment donné, a dû se poser pour vous le problème de l'utopie.
Oui.
Avez-vous été tenté de créer, du coup, une sorte d'utopie? Avez-vous été tenté de construire une utopie? Ce qui, pour moi, Ward n'est pas. Ward n'est pas une utopie. Mais est-ce que vous avez été tenté par cela?
Je m'en suis pas tout de suite aperçu, mais c'est en cours de route que j'ai rencontré la question de l'utopie. Et alors je répondrai un peu comme vous, de façon globale, évidemment, Ward n'est pas une utopie au sens où ça n'est pas un monde idéal, une ce n'est pas une société parfaite, tout à fait égalitaire, où il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des imperfections. Néanmoins, mon but n'était pas non plus d'inventer un monde pire que le nôtre. D'ailleurs, je vois mal comment on pourrait le faire. Donc, je suis un peu à mi-chemin, je pense. Enfin, j'essaye en tout cas de travailler à mi-chemin entre la... entre un monde aussi sombre que le nôtre et une utopie. Donc, j'ai l'impression, enfin, il me semble que le monde des Ward est un tout petit peu moins mauvais que le nôtre, et que si j'avais le choix, je préférerais vivre chez eux qu'ici.
J'aimerais maintenant qu'on aborde la question de la méthode d'écriture, non pas à partir de la langue, mais à partir du problème de la référence. Parce que dans ce livre peut se lire comme une anthologie. D'ailleurs, c'est une anthologie.
Oui,
donc, vous effectuez un travail d'historien, un travail de compilateur, puisque chaque texte est introduit. Il y a des lexiques, il y a bien entendu des notes de bas de page. Enfin, on se trouve là devant un travail d'historien, mais un travail d'historien imaginaire, un travail de compilateur à partir d'un matériau que vous avez vous-même construit. Alors, ma question, c'est comment arrivez-vous à oublier que c'est vous qui avez construit ce monde et produit ces textes ?
Là, encore une fois, je pense que c'est la barrière ou le filtre, en tout cas plutôt le filtre de la langue qui me permet d'avoir cette distance par rapport à une chose que j'ai moi-même écrite. D'une part parce que j'écris en Ward-Wesson, donc après je traduis en français, avec plus ou moins de délai d'ailleurs entre le moment de l'écriture et le moment de la traduction. Et plus il y a de délai, plus il y a de l'oubli, et donc plus je redécouvre complètement les textes que j'ai écrits, si c'est 3 ou 5 ou 6 mois auparavant. Et puis, j'interviens comme compilateur ou comme une espèce d'organisateur de l'ensemble, en tout cas de l'anthologie, toujours a posteriori. Donc, c'est après avoir relu, j'essaie de trouver des rapports ou une explication, disons, ou au moins une tentative de situation du fragment en question dans l'ensemble plus vaste qui forme l'anthologie. Donc en fait, j'ai plusieurs tâches en quelque sorte dans le livre. La première tâche vraiment brute, le point de départ, c'est écrire les textes dans cette langue imaginaire. Et c'est peut-être la tâche, la part la plus obscure du livre, ou même peut-être la plus obscure de moi-même, où là j'oublie tout quand je fais ça. Et puis après, il y a la tâche de traduction. Et puis encore après, donc la tâche de présentation, essayer de trouver pourquoi tel texte a été écrit à telle époque par tel auteur. Et alors parfois j'affirme, d'autres fois, et bon, c'est tout un jeu, parfois j'émets des hypothèses, d'autres fois les textes sont anonymes, donc je dis peut-être que c'est tel ou tel qui l'a écrit, ou en tout cas est-ce que c'est un moine ou un lettré ou je ne sais quoi qui a écrit ce texte. Parfois je dis qu'on n'en sait rien. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux en fait dans mon travail, plusieurs tâches différentes en fait auxquelles je me livre. Et mais je ne suis pas sûr d'être plus dans l'une ou dans l'autre. Enfin, je ne sais pas exactement où je suis. Je suis un peu diffus dans tout ça, quoi.
Donc, si je vous suis bien, vous arrivez à vous décentrer et à sortir de votre jeu du départ, à ressortir de ce jeu avec une facilité grâce à la langue wardienne que vous avez créée, et grâce aussi à cette multiplicité des tâches, écriture, traduction, et puis compilation, travail historique dessus, et c'est cela qui vous permet de sortir de cette matrice originelle, du coup.
Disons, je n'en sors pas complètement, mais de lui trouver un sens que je pourrais ensuite, que je peux transmettre en français. Voilà.
Et donc, du coup, j'en arrive au fait que vous avez... dans cette fiction, parce que c'est ça, c'est une fiction, vous avez réussi à inventer une fiction qui n'invente pas une histoire, mais qui invente l'histoire. On passe de une histoire, j'invente une histoire, à j'invente l'histoire.
J'invente l'histoire, j'invente des histoires, donc qui se superposent, qui se contredisent, qui se complètent, qui donnent après l'effet, en effet, l'impression. Il y a une histoire et qu'il y a de l'histoire. Alors si je fais ça, c'est sûrement pour, c'est pas bien clair pour moi, mais pour interroger l'histoire et l'histoire réelle, évidemment, puisque Après tout, l'histoire des Ward, elle est conditionnée par un certain nombre de questions, la politique, la religion, la langue, les croyances, etc. Et un peu comme n'importe quelle autre littérature, autre culture. Donc, oui, je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Donc, simplement, je n'ai pas l'ambition d'inventer toute l'histoire, mais peut-être plutôt d'interroger, c'est plutôt de questionner l'histoire en mettant presque tout à plat et en recommençant tout un peu tout à zéro, quoi.
C'est-à-dire
en partant de la langue.
Je me posais ce problème-là, puisque vous avez fabriqué une anthologie. Et puisque votre fiction, ce monde imaginaire des Ward, on y accède par ce travail d'anthologie.
Texte, vraiment, ça c'était essentiel, et c'est en ça où je voulais pas faire quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, en tout cas au sens restreint du terme. On accède au monde, alors parfois en quelques critiques ont parlé d'une œuvre monde ou d'un livre monde. Je veux bien, mais le problème c'est que c'est moins le monde des Ward qui m'intéresse que la trace qu'ils en ont laissée. Donc on accède en effet au monde hypothétique et bien sûr fictionnel des Ward uniquement par leur texte, par donc leur littérature. Et... alors ça pose vraiment le problème de savoir si est-ce que ce que disent les Ward de leur monde correspond bien à ce que était leur monde, en question sans réponse, mais qui nous renvoie à notre à nous bien sûr à la réalité. Est-ce que on pourrait à partir de notre littérature, qu'elle soit française ou européenne plus généralement, ou encore plus généralement occidentale et encore plus généralement mondiale ou que sais-je, est-ce qu'on pourrait en déduire une réalité absolument univoque? J'en suis pas sûr, en tout cas c'est la question que je pose.
Ce monde imaginaire wardien que vous avez créé, vous l'avez créé quand vous aviez une vingtaine d'années au début, même dans votre adolescence, un peu avant. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans différentes interviews que vous avez déjà données. J'imagine
tout à fait. Si vous permettez,
oui, allez-y.
Je vais corriger ce point-là. Le projet, disons, d'écrire quelque chose comme Ward remonte en effet à l'âge de 15 ans à peu près. Mais ça ne s'appelait pas Ward à l'époque. Ça n'était pas la langue des Ward. Ça n'était pas non plus le projet sous cette...
Tout à fait.
Cette forme-là, l'idée était semblable, mais le résultat est très différent. Et ce que le lecteur peut lire maintenant, c'est un travail qui remonte seulement à 4 ans. Il me semble que c'est il y a 4 ans que j'ai commencé vraiment à travailler.
Voilà, c'est tout à fait comme ça du coup que je l'avais compris. Et du coup, j'imagine qu'au début, vous avez réussi à inventer ce monde-là, à le faire vivre, et qu'après, vous avez dû vous poser le problème de la forme. Quelle forme lui donner pour en faire un livre? J'imagine que ça a d'abord été le monde, puis la forme. Et la forme, bah, c'est l'anthologie.
En fait, c'est les deux en même temps. Comme il est impossible d'écrire toute une littérature à moi tout seul, j'ai évidemment jamais eu cette ambition-là. L'anthologie est la seule forme que je puisse emprunter. Alors l'autre solution serait, et d'ailleurs je ne l'exclus pas, serait de présenter seulement deux ou trois textes, et non pas, comme il y en a dans le livre, une soixantaine, à peu près une soixantaine de textes différents dont on cite des extraits. Alors je pourrais aussi présenter deux, trois textes complets, donc textes intégraux, mais là ce serait une anthologie beaucoup plus réduite, mais ce serait possible aussi. Cela dit, j'ai toujours eu l'idée en effet plutôt d'écrire par fragments, de présenter des extraits, et même si j'ai écrit la suite, ou même si ce que j'écris est plus volumineux que ce qui est dans le livre, la forme de l'anthologie me paraît la seule nécessaire, la seule possible, pardon. D'ailleurs nécessaire aussi. Et pour revenir à ce que vous disiez aussi, je me suis demandé par exemple s'il fallait présenter seulement les textes, ce qui aurait été une possibilité à laquelle j'ai songé, ou bien s'il fallait donc les traduire, et là ça me paraissait assez évident de les traduire en français, mais les présenter en français avec une rapide notice, voir les commenter avec quelques notes pour expliquer tel ou tel trait de culture qu'on ne comprend pas très bien. Bon, finalement, j'ai opté pour le choix de l'anthologie, vraiment au sens classique du terme, avec des notes, une préface, des introductions, des présentations. Mais la question s'est posée, en fait.
Donc, on n'a pas échappé à d'autres formes. Il y avait immédiatement de donner cette forme d'anthologie.
Oui, la la seule, effectivement, la seule autre forme possible aurait été de donner les textes bruts avec la traduction et puis débrouillez-vous. Donc là, je pense que ça aurait été beaucoup plus indigeste.
Oui, ça aurait été même beaucoup moins pertinent. Du coup, là, le livre prend complètement sa force de l'anthologie et du travail historique que vous faites dessus.
Voilà, mais avec toujours la nuance, la réserve que ce que j'écris dans les présentations n'est pas forcément valide à 100%. Ce sont des hypothèses, ce sont des choses que les historiens, entre guillemets, des Ward savent, mais des choses qu'ils ne savent pas aussi. Donc, c'est quand même un discours sur ces textes-là. Donc, ça n'a pas le même statut, ça n'a pas la même valeur que les textes eux-mêmes. Après tout, on pourrait très bien proposer d'autres hypothèses, d'autres sur les auteurs ou sur l'époque ou sur le sens même du texte. On pourrait interpréter différemment certains, pas tous, mais certains des fragments.
Je vais vous proposer une pause musicale pour que revenir dans deux petites minutes. Là, vous nous lirez un poème et nous parlerons des questions de la langue dont nous n'avons pas encore parlé. Et nous aborderons là ces problèmes de la langue vardienne. Karl, qu'allons-nous écouter ?
Un extrait du premier album de Fred Friis, guitare solo, qui passera d'ailleurs Fred Friis à Poitiers le 22 mai. On peut le dire.
Allons-y, Karl. Karl, c'est avec une guitare que ce monsieur a fait de la musique,
hein ? Simple guitare, et je crois que c'est tout enregistré en une prise en fait. C'est, c'est là que c'est fort.
Vous êtes toujours à l'émission de littérature. Nous parlons de Ward, premier de mes deuxième siècle, paru dans la collection Fiction et compagnie au Seuil, un livre de 450 pages qui coûte 22 euros que vous trouvez en librairie. Livre de Frédéric Verst. Frédéric Verst ? Très bien. Donc, deuxième partie de cet entretien, nous allons parler de la question de la langue. Et pour introduire la langue, vous allez nous lire un poème, Les Chants de Gédara.
Entendu. Alors, je vais le présenter rapidement. Il s'agit d'un poème qui a été écrit au début du 1er siècle du calendrier des Ward et écrit à l'occasion de la mort du prince, en fait héritier, de la mort du fils du premier grand roi des Ward, qui s'appelle Zaragabal, donc le roi, et le prince s'appelait Atir, si vous préférez. Et donc c'est un ensemble de strophes, de 11 vers, qui obéissent à la métrique, à la poésie traditionnelle des Ward, dont je vous dirai un mot, si vous voulez, tout à l'heure. Voici donc une de ces strophes, donc, qui évoque donc le retour du roi à l'endroit où son très jeune fils donc est mort. Donc un poème plutôt mélancolique. Je jedra yel yemun jaman janaren kerst karwan ar asa kanun al kase em erkanis esa nurza enwerun nam yera na yamir naza yasaren. Gem erkam et enzar kazar gawadan, ar aga pers anke parsa pereman, akneran al anzu norwa nazagen, ar quarkon abuamen adet arkafen, Ast athir man methun magra abjaren, barbizen bait aken armar barawan, zabama bzama zamu baragan. Alors je vais essayer de vous le traduire, donc vous n'avez pas la traduction française sous les yeux, donc mot à mot et en improvisant. Jedrael, donc signifie entre les, parmi les collines de Jedra. Jedra, c'est une ville où est mort ce prince. Yemun Jaman Janaren, je reviens, je retrouve plutôt la même chose. Kerf Karwan Ar Asa, la pierre sacrée, indique le lieu. Kanun Al Kaseh, dans un bois, dans un bosquet. M. Erkanes, Etha Nurza Enwerun, et ici, mon fils, jadis, sais-tu. Nam Yera Na Yamir Naza Yatharen, moi, donc je rencontre un messager dans le discours du feuillage. Gem Erkam, car le vent, Eth Enzar Gazar, et non pas donc l'enfant endormi. Gawadan revient toujours. Donc, car le vent revient toujours et pas l'enfant endormi. Ar Agaperth, les autres plantes, Anke, maintenant, Parza, la vigne vierge, Pereman, les entraves, les emprisonne. Akneran, la vigne vierge, donc qui signifie Alt Anzo Norwa Nazagend, ceux qui ont disparu après peu de temps, donc ceux qui sont morts jeunes en fait. Arquarkon auprès de l'acanthe, Abouamen Hadès qui est l'autel des morts, Arkafen, je me faufile. L'acanthe pour les Wards, c'est la plante qu'on met dans les nécropoles, c'est la plante des morts en fait. Athirman, devant l'image d'Athir, Methon Magra, contrairement au rite, Abjaren, je ne vais pas, donc je ne vais pas voir l'image d'Athir, contrairement au rite. Barbizen Bais, mais je gémis des larmes. Akan Arma, que les dieux, Barawan boivent, que les dieux boivent. Zabama Bzama, ce sont les fontaines. Bazama Zamo Bararan, qu'ils versent dans notre mémoire. Donc les larmes, en fait, pour les morts, sont bues par les dieux et ce sont les fontaines qu'ils versent dans notre mémoire. Voilà cette espèce d'élégie donc, sur la mort d'un prince.
Merci beaucoup Frédéric Viers pour cette lecture et cette traduction. On voit bien cette particularité que vous avez eue d'écrire d'abord dans la langue que vous avez créée. D'abord une langue et oui. Après une traduction en français. Donc moi je suivais en même temps la traduction qu'il y a dans votre livre. Ça m'a permis de voir du coup les écarts et du coup la manière dont cette langue est vraiment... imaginé par... Enfin, c'est vraiment incroyable d'avoir suivi ça, le livre à la main. J'aimerais que vous nous parliez, là d'abord, de votre travail de traducteur. D'abord la langue, et après, vous la traduisez. Est-ce que vous avez effectué un vrai travail de traduction ? Êtes-vous servi de théorie de traducteur pour traduire la langue que vous avez imaginée ?
Alors, en fait, dans ce premier volume, j'ai voulu suivre une traduction assez littérale, donc en respectant le plus possible, ce qui est difficile parce que la grammaire du Warnouessan est assez différente de celle du français, mais suivre tout de même à peu près le mot à mot, ou en tout cas le plus possible. Alors je me demande en effet, sans aucun doute, on pourrait beaucoup jouer sur les traductions de style, de ton très très varié. De façon générale dans le volume, pour la prose, donc j'ai essayé en effet d'être le plus littéral possible, avec des exceptions, puisque parfois j'ai traduit certains poèmes en alexandrin par exemple, ce qui là évidemment amène des écarts supplémentaires.
Quand vous avez écrit dans cette langue vardienne, vous avez complètement oublié le français.
Alors, quand j'écris, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. Quand j'écris, donc les mots, évidemment, je les écris en wardouessant, donc dans la langue des Wards. Au moment où j'écris en quelle langue je pense, je ne peux pas me dédoubler et vous dire, je pense que ça doit être un mélange, en fait, des mots qui me viennent en wardouessant, des idées qui me viennent en français ou en wardouessant. Ça dépend beaucoup en fait. Alors, au fur et à mesure en effet que ma pratique s'est développée, la langue m'est plus familière, donc plus naturelle. Mais il y a toujours quand même certains mots qui sont là en français ou qui, en arrière-plan en tout cas. Enfin, même si après, évidemment, quand je laisse passer du temps que je traduis, j'ai oublié le français et il ne reste plus que le texte. Donc il faut quand même traduire le texte en voie adolescente.
J'imagine par exemple que quand vous vous mettez à écrire des poèmes dans cette langue vardienne, vous inventez des mots en même temps.
Alors au début, il est vrai que j'avais déjà, avant d'écrire vraiment le premier fragment, j'avais travaillé pendant plusieurs mois à la langue. J'avais donc déjà des règles, un lexique, etc. Mais disons, c'était la base. Après, bien sûr, en écrivant, donc par l'usage simplement, la langue s'est enrichie, forcément, mais elle s'est enrichie en partant la plupart du temps des racines qui existaient déjà, ce qui permet après de voir des groupements de mots qui se rattachent à une même racine. Donc je n'avais pas toute la langue a priori, évidemment pas. La langue, elle est inséparable d'un usage. Et d'ailleurs, en écrivant, je me suis trouvé parfois face à des cas où je n'avais pas prévu. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de règles de grammaire sur tel ou tel cas précis. Donc il fallait bien, à un moment, trancher ou bien inventer un usage ou inventer des règles. Et puis d'ailleurs, dans la langue, il y a des flottements, il y a plusieurs usages, en fait, il y a plusieurs dialectes, il y a plusieurs normes, donc c'est tout de même assez varié.
Et c'est une langue écrite et pas oral.
Dans la mesure où le livre se présente comme la trace finalement littéraire de ce peuple imaginaire, c'est essentiellement écrit. Je ne m'amuse pas en effet à parler tout seul sous ma douche en vardouessant. Je pourrais éventuellement essayer, mais ce n'est pas mon propos. Hein. Mon propos, c'est de m'en servir pour écrire.
Alors là, c'est un objet quand même curieux que vous avez fabriqué, c'est-à-dire que vous avez le français est une langue de traduction d'une langue imaginaire. On est dans ce qu'on lit en français, c'est la traduction de votre langue imaginaire. Donc, du coup, pourquoi, du coup, rendre ce monde crédible en lui inventant une langue ? C'était essentiel pour vous d'inventer une langue pour décrire ce monde imaginaire et pour inventer ce monde imaginaire, même pas pour le décrire, pour l'inventer. Vous avez eu besoin de la langue pour l'inventer.
Pour le dire, oui. Pour dire ce monde imaginaire, oui, j'avais besoin de la langue.
Parce que
sans quoi, d'abord, ça a déjà été fait 100 fois, inventer des mondes imaginaires, tout le monde fait ça. Sans la langue et sans surtout le fait que tout soit dans la langue au départ, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains qui ont inventé des langues imaginaires et qui s'en servent, qui saupoudrent en quelque sorte leurs histoires en français, en anglais ou dans une langue réelle, d'extraits dans les langues imaginaires. Que tout ait d'abord été écrit dans la langue, c'était pour moi, enfin, c'est l'essence même du projet. C'est mon idée, voilà. Donc je ne pouvais pas faire autrement. Et puis, par ailleurs, je pense que je ne pourrais même pas en fait écrire en français directement. Ça serait, à mes propres yeux, ce ne serait pas crédible.
Parce que c'est là tout l'apport de votre livre, tout l'apport, c'est que vous avez pris suffisamment de temps, vous avez mis suffisamment d'imagination et de création pour dire « je ne vais pas créer un monde imaginaire en français, je vais d'abord lui inventer sa langue et c'est dans cette langue-là que je vais inventer l'imaginaire et que je vais inventer ce monde ». Là, c'est quand même quelque chose de très fort qui n'a jamais été fait.
À ma connaissance, non, il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent, mais en tant que tel, non, je ne crois pas que ça ait été, fait. Non.
C'est ça qui tient tout votre livre, c'est cette invention de langue.
Oui, et non seulement l'invention de la langue, mais au moins un embryon de réflexion sur la langue qui fasse que le wardouessant, la langue des Ward, ne soit pas un simple décalque du français.
Alors,
j'ai bien sûr évité de... Bon, la grammaire est un peu particulière, elle ne correspond pas à celle du français, il n'y a pas d'adjectif, c'est une langue sans adjectif par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes dans la grammaire, même si elle n'est pas très compliquée, elle est assez singulière. Et puis il y a beaucoup de concepts que nous utilisons tous les jours en français, ou qu'on trouve bien sûr dans les autres langues européennes, qui ne se trouvent pas dans leur langue. Par exemple,
exemple, il n'y a pas de verbe être, il n'y a pas un mot pour dire le temps. Le concept de temps n'existe pas vraiment. Le concept de nature n'existe pas. Le bien et le mal, ça n'est pas très clair. Enfin, ce sont pas des... Donc, ils ont aussi, il n'y a pas que la langue, évidemment, c'est pas seulement une question de vocabulaire. C'est aussi essayer de faire en sorte, et c'est là où le travail est le plus difficile, mais aussi le plus intéressant pour moi, de faire en sorte qu'il n'ait pas tout à fait les mêmes catégories. Et mon hypothèse, c'est que s'ils n'ont pas tout à fait le même découpage, disons, du réel dans leur langue, c'est qu'ils ne vont pas écrire, les mêmes choses, ils ne vont pas penser tout à fait de la même façon.
Ma question, du coup, c'est quelle méthode pour inventer une langue, d'abord le son, l'esthétique, la signification après. Est-ce que vous parlez vous-même plusieurs langues?
Alors, la méthode, elle était très... très empirique quand même, avec tout de même quelques connaissances linguistiques de base et quelques connaissances d'autres langues assez diverses, de façon à éviter toujours de reproduire à l'identique ce qui existe déjà. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de verbe être, par exemple pas de verbe avoir non plus, que la moitié des phrases en vérité n'ont pas de verbe, on construit des phrases sans verbe très facilement dans cette langue. C'est ça que je voulais, dont j'avais au moins l'intuition au départ, de même qu'il n'y ait pas une classe de mots qui s'appellerait des adjectifs, de même il n'y a pas d'adverbe. Donc ça, c'était un peu les idées de départ que j'avais. Et puis, dans la volonté vraiment de me différencier des langues réelles. En tout cas des langues réelles que je connaisse. Après, il y a bien sûr des langues sans verbe être et sans adjectif, mais c'est autre chose. J'ai perdu le fil de la question.
C'était quelle méthode pour inventer cette langue? Le son d'abord, alors, l'esthétique, la signification?
C'est inséparable à la fois les lettres, j'attache une valeur esthétique à certaines lettres plus qu'à d'autres, à certains sons plus qu'à d'autres, donc évidemment je privilégie les lettres qui me plaisent le plus ou les sons qui me... la même chose, les lettres sont les sons, pour moi c'est pareil, en évacuant d'autres qui me plaisent moins. Donc il y a une espèce de subjectivité qui est à l'œuvre, mais qui permet peut-être que la langue soit reconnaissable, c'est-à-dire que même si on la comprend pas, même si le lecteur n'est pas tenu évidemment de l'apprendre, pour lire le livre, en tout cas pour lire le livre en français, on reconnaît, au bout d'un certain temps, je pense qu'on reconnaît que c'est du Howard Wesson, même si on n'y comprend rien, tout comme on reconnaît du néerlandais, ou sans le connaître, ou du hongrois, par exemple.
Et à partir de quelle étymologie est-ce que vous fabriquez un mot? Comment vous fabriquez un mot? Comment vous décidez ce mot-là? Voilà, il va signifier ça, et je le prononce comme ça, et je l'écris avec ces lettres-là.
Alors, au départ, il n'y avait pas d'étymologie au sens où il n'y a pas de rapprochement avec les langues réelles. J'ai évité absolument que... Alors, bien sûr, il y a des exceptions, des choses inconscientes, des choses qui m'échappent, évidemment.
Parce qu'à un moment donné, vous fabriquez un dictionnaire, quand même.
C'est l'arbitraire, c'est-à-dire que j'ai dressé des listes de mots en Howard Wesson qui me plaisaient, j'avais envie d'intégrer dans la langue, et ensuite je leur ai attribué une signification, ou un groupe de significations de manière arbitraire, c'est-à-dire en prenant un dictionnaire français, en ouvrant au hasard, en tombant sur tel mot, on dit ça, mine, ça voudra dire ça, ou, etc. Voilà. Donc j'ai travaillé un peu par hasard, un peu. Et puis après les racines se constituent, donc après j'entre dans la logique de la langue.
Cette langue, vous avez poussé le bouchon très loin, puisqu'elle s'est modifiée. C'est pas une langue figée. Elle se modifie au fil des enfin, là, on voit deux siècles.
Oui.
Et vous l'avez modifiée. Est-ce qu'elle se modifie un peu au fil de ces deux siècles ou pas? Moi, j'ai l'impression vous dites à certains moments que cette langue, sur les passages qui concernent la langue, qu'elle se modifie.
Donc dans le volume 1er, 2e siècle, j'ai ajouté trois textes de langue archaïque, donc qui est très différente en effet de la langue classique qui est utilisée, ou en tout cas assez différente de la langue classique qui est utilisée. Même le lecteur, je pense, sans rien y connaître, peut s'apercevoir que c'est pas les mêmes lettres, ça ressemble pas, quoi. La langue archaïque, donc qui concerne trois textes, je crois, au début. La langue classique, ou plutôt les langues classiques, qui occupent l'essentiel quand même du volume,
avec en effet de légères inflexions au fil du temps, et quelques fragments qui appartiennent, ou même un certain nombre de fragments en fait, qui appartiennent à, ou bien à des dialectes vraiment clairement différenciés de la langue classique, ou bien qui portent l'influence d'un dialecte. Ce qui fait que le même mot n'a pas toujours exactement la même forme suivant les auteurs ou suivant les périodes.
Vous avez inventé la langue écrite par un seul, la langue écrite par uniquement vous. Comment est-ce que vous le vivez ?
Pardon, je n'ai pas entendu.
Comment est-ce que vous vivez le fait que vous avez inventé une langue écrite par vous seul ?
Je ne sais pas, je ne le vis pas dans ma vie quotidienne. C'est mon travail d'écriture, donc ça ne me pose pas.
C'est-à-dire qu'on est dans un moment où il y a une uniformisation des langues,
oui.
Où il y a une disparition des langues,
oui.
Donc une disparition, enfin un amoindrissement de la diversité linguistique,
oui.
Et on vous sent offensif là-dessus. Vous en inventez une de plus.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une préoccupation que j'ai réellement, et là, pour le coup, dans la vie réelle. Bien sûr, inventer une langue, c'est pas ça qui changera le monde, qui changera le cours des choses, mais voilà, si au moins ça peut signaler le fait que, en effet, nous sommes dans une époque d'uniformisation, voire d'une espèce de d'hégémonie qui est en train de s'installer et de façon à la fois consentie par ceux qui pourraient en être les victimes et offensive de la part de ceux qui en sont les instigateurs. Oui, j'ai l'impression que la langue est éminemment politique et qu'on peut au moins poser la question. C'est pas un tabou que de poser la question de la francophonie, de la diversité culturelle et linguistique, de la défense des langues minoritaires, et seulement du droit à chacun aussi de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Alors, pas seulement en littérature, bien sûr, mais peut-être aussi dans la vie réelle. Et je crois que ce droit de s'exprimer dans sa langue est de plus en plus contesté pour des raisons idéologique et économique essentiellement.
Mais alors vous, puisque vous êtes le seul à écrire cette langue que vous avez inventée, est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir un soupçon sur votre langue ? La fiction, la littérature, il y a toujours un soupçon dans la fiction. Mais comment savoir que vous ne truquez pas, que votre langue Ward tient bien en tant que langue, que ce que nous lisons de la traduction française, faite par vos soins, tient bien. Et j'imagine que vous travaillez aussi avec ce sentiment de peut-être d'avoir un soupçon à votre égard. Enfin, est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir légitimement un soupçon à votre égard sur la langue wardienne ? Est-ce que vous comprenez ce soupçon ?
Oui, c'est pour cette raison que j'ai intégré au moins un abrégé de grammaire, donc qui ne répond pas à tous les cas de figure, mais en tout cas à 90%, et un lexique qui, là encore, ne comporte pas tous les mots de la langue, ni même peut-être pas tous les mots de la langue qui sont utilisés dans le livre, mais 90% aussi, de telle sorte que le lecteur qui vraiment serait soupçonneux puisse vérifier et d'ailleurs trouver aussi des cas où je ne traduis pas si bien que ça, où je fais peut-être des faux sens. C'est pas que je truque, je crois que je suis très quand même méthodique et rigoureux, tout à fait sincère dans ce travail, mais bon, je suis pas non plus infaillible. Parfois, je fais des erreurs. D'ailleurs, il y a des erreurs dans le livre de traduction ou même dans les textes. C'est très marginal, mais il y en a quelques-unes. Voilà, mais en présentant la grammaire et le vocabulaire, j'ai tout de même donné à ceux qui seraient vraiment très désireux d'aller vérifier les moyens de le faire, au moins de le faire en grande partie. Voilà. Et de voir que, globalement, mes traductions sont possibles par rapport au texte, même si je ne prétends pas qu'elles soient parfaites. On pourrait traduire mieux que je ne l'ai fait, peut-être.
Mes dernières questions vont porter sur le problème de la documentation, parce que vous avez vous-même inventé la documentation, donc à la fois la documentation sur la langue, grammaire, lexique, bien entendu, mais documentation est énorme. Sur le monde, parce que vous êtes fixé plein de beaucoup de contraintes dans l'invention d'un monde pour que ce monde soit crédible. On a parlé de la crédibilité de la langue, mais le monde doit être crédible. Et là, lui, on voit tout de suite s'il est crédible. Avec la traduction en français, c'est immédiatement ce qui nous saute aux yeux. Est-ce qu'il est crédible ? Est-ce qu'il n'est pas crédible ? Et là, on sent tout de suite très rapidement qu'il est complètement crédible. Donc là, vous avez aussi une contrainte forte de l'invention d'un monde pour qu'il soit crédible avec une énorme documentation, parce que vous le faites évoluer chronologiquement, bien entendu,
oui, ce monde.
Il y a une histoire, il y a une évolution là sur 2 siècles, et l'évolution de cette civilisation, l'évolution de cette pensée, j'imagine la masse énorme de documentation que vous avez inventée pour le coup.
Oui, mais c'est pour ça que la forme de l'anthologie le laisse deviner de toute façon au lecteur. L'anthologie, le livre tel qu'il existe en librairie, l'anthologie donc qu'on peut lire, c'est une partie de mon projet. J'ai évidemment quantité de cahiers, de feuilles qui traînent, de brouillons de toutes sortes, de cartes géographiques, de chronologies, de fiches de toutes sortes, qui ne sont évidemment pas dans le livre, mais dont j'ai besoin. Et pour aboutir en effet à cette espèce d'effet de réel, mais pour finir là-dessus, je pense que l'effet de réel repose, c'est paradoxal, mais ça repose sur 2 choses. À la fois la cohérence, il faut un minimum évidemment de cohérence, et dans la langue, et dans la culture, dans la pensée, dans la religion, dans la philosophie, dans l'histoire littéraire, etc. Et aussi la contradiction, parce que si tout était cohérent, ça ne serait pas non plus, ça ne serait pas un monde en fait.
Mais c'est ça, mais pour fabriquer quelque chose qui n'est pas cohérent à certains moments, volontairement, comme une anthologie historique, bien entendu, montre qu'il y a des incohérences entre les différents textes, pour organiser cela, ça demande pour vous de l'invention.
Oui, alors oui et non, il y a certaines incohérences qui sont voulues, en effet, qui sont des contradictions. Par exemple, lorsque 2 auteurs ne sont pas d'accord sur le même sujet, c'est une contradiction que j'ai voulu, évidemment, parce que c'est comme ça dans la réalité. Parfois, ce sont aussi des incohérences qui m'échappent, mais je les redécouvre après coup et j'essaye d'en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je me situe aussi en aval du travail, d'où l'importance de relire quand même, de réfléchir sur ce que j'ai fait, surtout dans une langue inventée pour réinterpréter et puis continuer à travailler tout simplement. C'est en relisant certains des textes que me viennent de nouvelles idées. Comme ça se passerait, je pense, dans une histoire littéraire réelle.
Mais du coup, cette énorme documentation, que j'imagine en tout cas énorme, comment vous avez réussi à l'organiser pour qu'elle soit très directement utilisable? Parce qu'à un moment donné, vous créez de la documentation, mais vous allez en avoir besoin pour l'utiliser pour inventer un poème, par exemple. Comment vous la rendez directement accessible? Parce que là, vous êtes avec des milliers et des milliers de noms, avec une vaste histoire. Comment vous la rendez directement accessible? Vous la mémorisez?
En grande partie, oui. Je mémorise beaucoup ce que j'arrive à mémoriser, évidemment. Et puis sinon, comme je vous dis, j'ai des dizaines de cahiers, de fiches, de brouillons, de toutes sortes dont je me sers quand j'en ai besoin, oui.
Et donc, là, vous n'êtes pas organisé une méthode d'utilisation rapide de votre documentation?
Non, parce que je veux rester en même temps toujours le plus empirique possible. C'est-à-dire, je ne cherche pas à ce que le livre soit trop concerté. Il faut qu'il reste une part de flottement, à mon avis. Donc, je me sers évidemment de toute la documentation possible, mais je me laisse toujours la marge de liberté. Donc, il y a beaucoup de contraintes, évidemment, dans le livre. J'obéis à beaucoup de contraintes que je fixe moi-même, mais j'ai aussi une grande marge même de liberté, puisque je peux tout simplement redéfinir les contraintes au fur et à mesure.
Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Verst.
C'est moi qui vous remercie.
De vous accorder cet entretien par téléphone en direct pour parler de Ward, 1er et 2e siècle. Juste un mot pour... Il y aura une suite, j'imagine?
J'y travaille, oui. J'ai à peu près écrit la moitié du 3e siècle, voire les 2/3, ce qui sera la suite, en principe.
Donc voilà, la suite de votre travail, c'est de continuer Ward et non pas de sortir complètement de ce monde-là. Vous continuez dans ce monde-là.
Pas dans l'immédiat, j'imagine d'autres choses, et en particulier, je peux vous en dire un mot, j'imagine, alors d'abord de continuer donc les 3e, 4e siècle, etc., juste, et puis à m'arrêter bien sûr à un certain moment, ça va pas aller jusqu'au 31e siècle évidemment, et puis surtout d'imaginer ensuite une rencontre entre les Ward et des Européens, des gens réels.
D'accord, ah oui, très bien, donc là vous allez faire rentrer l'imaginaire et l'histoire de Ward dans notre monde à nous.
Voilà, et sous la forme d'une rencontre comme il s'en est produit entre notre civilisation et puis d'autres autrefois, une rencontre qui sera probablement assez violente.
Très bien.
Des faveurs, évidemment. évidemment des Ward.
Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Woerth.
Je vous remercie.
Merci. Au revoir.
Au revoir.